La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Mon nom de famille rappelle le premier mot anglais qu'on a appris à l'école et qu'on n'a plus jamais utilisé après dans notre vie. Je suis connu pour avoir gagné la palme du racisme, de la xénophobie ou encore de l'homophobie plusieurs années d'affilée. Et les membres du GUD m'adorent, mais c'est à peu près tout. Je suis Jean-Marie Le Pen. Voilà, le leader de l'ancien RN, donc le FN, est mort. Alors du coup... Je vais vous partager d'autres bonnes nouvelles pour vous mettre encore du baume au cœur. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Allez, je me lance. Le Zimbabwe a officiellement aboli la peine de mort le 31 décembre via un décret à effet immédiat. Bravo le Zimbabwe. Donc, depuis une semaine, les tribunaux de ce pays d'Afrique australe ne peuvent plus prononcer de peine capitale, quel que soit le crime commis. Et pour la soixantaine de condamnés à la pendaison qui attendent dans les couloirs de la mort, ils voient leur sentence désormais transformée en peine d'emprisonnement. Alors, comme je suis une personne curieuse, j'ai voulu savoir qui était la dernière personne, hélas malchanceuse, à avoir été exécutée. Et là, ça devient croustillant. Le Zimbabwe n'a plus exécuté de prisonniers depuis 2005. Pourquoi depuis 2005, me demanderez-vous ? Eh bien, principalement parce que les autorités zimbabwéennes étaient dans l'incapacité de recruter un bourreau pour pendre les condamnés. Donc, des offres d'emploi ont bien été publiées, mais elles sont restées vacantes depuis que le dernier bourreau du pays avait pris sa retraite en 2005. Alors même que la majorité des Zimbabwéens se déclaraient encore favorables à la peine de mort en 2018. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du Zimbabwe ? Déjà parce que je voulais vous parler d'un véritable angle mort des questions de métiers en tension. Ensuite, pour célébrer l'entrée en 2025 du Zimbabwe comme 120e pays abolitionniste de la peine de mort dans le monde. Et ensuite, pour vous dire que le même jour, dans cette même région du monde, au Zambie, cette fois-ci, un policier ivre a ouvert les geôles de sa prison pour libérer 13 de ses occupants. Donc selon le communiqué de la police locale, je cite, un policier en état d'ébriété s'est emparé par la force des clés d'un collègue et a déverrouillé les portes des cellules d'hommes et de femmes enfermées à l'intérieur pour qu'ils puissent célébrer les festivités du nouvel an. C'était une belle époque pour les prisons en Afrique australe. Vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez en direct la matinale de Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue donc dans cette nouvelle matinale de 19h. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. Au programme ce soir, nous parlons catastrophe climatique et inégalité sociale avec Élise Nakarato, responsable plaidoyer pour l'ONG Oxfam. L'émission se poursuit en cinéma avec le zoom sur le festival Paris Court Devant. Puis on termine avec la chronique de Fabien. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris au 93.9 et vous écoutez la matinale.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, l'interview avec Quentin.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Élise, bonjour Guilhem. Trois semaines après le passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte, cyclone le plus dévastateur que l'île ait connu depuis 90 ans, qui a fait près de 39 morts et plus de 5600 blessés selon la préfecture, dans cette île où les trois quarts des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, ça nous rappelle à quel point nous ne sommes pas tous égaux face au réchauffement climatique, et ça remet au cœur de l'actualité la place qu'occupent les territoires et les départements d'outre-mer au sein du système politique français. Et pour en discuter, nous accueillons ce soir Élise Nakarato, responsable de la campagne Climat chez Oxfam. Bonsoir Élise.
Bonsoir.
Première question, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce que fait Oxfam ?
Oui, alors Oxfam, c'est une ONG de solidarité internationale qui est présente dans 80 pays dans le monde. Donc en fait, c'est un réseau d'associations locales qui se bat contre la pauvreté et pour réduire les inégalités. Et donc, on a des actions de terrain. Ça va être, par exemple, tout ce qui est lié à l'assainissement, l'eau. Il y a des associations locales qui sont présentes, par exemple, dans des camps de réfugiés. Et on fait aussi tout un volet de plaidoyer et de campagne, donc ça plutôt dans les pays riches, notamment c'est ce qu'on fait en France, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer les lois, changer les réglementations ou changer le système économique, alors c'est un vaste programme, hein, mais pour, encore une fois, essayer de réduire les inégalités au niveau mondial. Et c'est en ce sens-là qu'on s'intéresse notamment aux impacts du changement climatique parce que on va en parler, je pense, dans l'émission, mais effectivement, le changement climatique, aujourd'hui, il augmente les inégalités sociales partout dans le monde.
Juste pour comprendre, on parle justement souvent de plaidoyer dans les associations pour que ça puisse parler un peu au commun des mortels. C'est-à-dire, concrètement, vous, au quotidien, vous faites quoi quand vous faites un plaidoyer?
Eh bien, alors, on fait plein de plaidoyers, c'est-à-dire qu'on va faire des études, des rapports, on va travailler avec des chercheurs, des chercheuses qui vont étudier des phénomènes et on va concrètement essayer de changer la loi. Donc, ça peut être au niveau législatif, hein, on va rencontrer des parlementaires, des élus. Ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau international. Par exemple, on essaye d'influencer les COP sur la question du climat. Mais ça peut être aussi du plaidoyer pas législatif, notamment avec les institutions économiques, les entreprises ou les réseaux d'entreprises, pour faire en sorte que bah, le monde soit un petit peu plus juste. Pour caricaturer un petit peu, c'est exactement pareil que quand les lobbyistes de Total vont faire du lobbying, sauf que nous, on le fait pour l'intérêt général et qu'on a moins de sous aussi.
Très clair.
Et sur les territoires concernés, par exemple, si on prend le cas de Mayotte, comment Oxfam est intervenu pour venir en aide aux populations?
Alors, nous, on n'est pas intervenu directement parce qu'on n'a pas de personnes présentes toute l'année à Mayotte. Contrairement à d'autres ONG, nous, on ne fait pas de l'intervention d'urgence. On va plutôt travailler avec les associations locales qui sont sur place. Il y a certains pays ou certaines zones où on a des équipes sur place. Ce n'est pas le cas à Mayotte, donc on ne va pas faire d'intervention d'urgence. On va bosser avec les assos locales. Par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé avec un réseau qui s'appelle Mayotte à soif. C'était avant le cyclone, hein, parce qu'on travaillait notamment sur une notion qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais qui s'appelle l'hydrocolonialisme. Donc, la façon dont les dynamiques coloniales vont accaparer l'eau de certains territoires, et notamment, c'est le cas pas mal à Mayotte. Donc, c'est des relations avec les assos locales qui existent depuis assez longtemps. Et par exemple, là sur Mayotte, nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt le volet plaidoyer et campagne. Donc, on va soit lever des fonds, soit faire de la communication pour des cagnottes, etc. Et en tout cas, essayer de mettre en lumière les inégalités qui existent et comment on pourrait faire pour qu'elles soient moins criantes.
Et aujourd'hui, ces inégalités, comment elles se manifestent concrètement? On prend l'exemple de Mayotte, mais dans tous les territoires un peu fragilisés justement par ces enjeux climatiques, on pense notamment au territoire du Sud.
Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que le changement climatique, il augmente les inégalités sociales. C'est pas forcément hyper clair. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, c'est assez simple. Quand on a un impact du changement climatique, un événement climatique extrême, en fait, le changement climatique, il va dans le temps augmenter les phénomènes extrêmes. Donc, ça peut être des phénomènes rapides. On l'a vu avec le cyclone, mais on pense, par exemple, aux feux de forêt, aux inondations, où c'est hyper rapide. Mais ça peut aussi être des phénomènes extrêmes qui sont un peu longs dans le temps. Par exemple, les sécheresses qui vont durer plusieurs années ou l'augmentation du trait de côte, c'est-à-dire l'avancée de la mer dans certains territoires, y compris par exemple en France métropolitaine. Donc, on va avoir une augmentation dans les années à venir de ces phénomènes-là. Et en fait, si on n'a pas de politiques qui vont, d'une part, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est un peu la base hein, quand même, faut réduire les impacts du changement climatique, et d'autre part, réduire l'exposition à ces impacts-là, on va avoir les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus pauvres, mais ça peut être aussi les populations qui ont moins accès aux soins, moins accès aux informations, peut-être parce qu'elles ne parlent pas la langue commune, ou toutes les populations qui sont marginalisées, je pense notamment aux femmes, aux minorités de genre, aux personnes racisées, qui ont, on va dire, moins de ressources pour faire face à ces événements-là. En fait, c'est la différence qu'on fait entre l'exposition à un phénomène et la vulnérabilité. Je vous prends un exemple. Quand vous et moi, on va à la plage, on est exposé au soleil. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose s'il y en a un d'entre nous qui a un chapeau, de la crème solaire et une chemise et des pantalons. Eh bien, le changement climatique, c'est pareil. On peut être tous et toutes exposés à des phénomènes, par exemple le cyclone, mais ça peut être encore une fois des canicules, etc. Mais on n'a pas tous la même vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est d'une part individuelle. Bah, une personne âgée, elle va être plus faible, par exemple, plus vulnérable aux vagues de chaleur. Mais elle est aussi construite collectivement. Je vous prends un exemple. Une des premières canicules liées au changement climatique qu'on a eu en France en 2003, on voit que dans le département de Seine-Saint-Denis, il y a une surmortalité de 160% par rapport au reste de la France. Pourquoi ? Notamment parce que c'est un désert médical. Et donc, moins de capacité à aller vers les services médicaux, moins de soins en fait, apportés à la population, augmentation de la mortalité. Et voilà, des exemples comme ça, on en a vraiment de très nombreux. C'est pour ça que nous, on parle d'augmentation, d'impact sociaux du changement climatique. Il y a effectivement la question économique. C'est assez simple, quand on pense, par exemple, en 2002-2003, il y a eu des grosses vagues de chaleur aux États-Unis. Les personnes qui avaient beaucoup de sous, elles faisaient quoi ? Elles allaient louer un Airbnb climatisé. Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 200 dollars par jour pour louer un Airbnb climatisé. Donc, les inégalités économiques, c'est assez clair. Mais il y a certains indices de vulnérabilité auxquels on pense moins. Je pense notamment aux inégalités de genre. On le voit par exemple en ce moment en Somalie, dans l'Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique, il y a une sécheresse historique. Il y a la pire crise alimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale. On en parle très peu d'ailleurs. Si vous voulez en parler dans une autre émission, ce serait hyper intéressant. Ce phénomène climatique-là, il augmente une augmentation des mariages précoces et des mutilations génitales. Pourquoi ? Parce que les familles, elles ont moins de ressources et donc elles sont obligées de marier leur enfant et notamment leur jeune fille très tôt. Donc, on voit que sur tous les paramètres sociaux qui sont des paramètres d'inégalité, le changement climatique, si on n'y fait rien, si on n'a pas de politique au niveau mondial, au niveau national, qui lutte activement contre ces inégalités-là, il va augmenter ces inégalités.
Mais pourtant, justement, l'État peut se targuer d'avoir mis en place, par exemple, un plan national d'adaptation au climat. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est en 2011. Vous, quel point de vue vous avez là-dessus chez Oxfam ? Pareil, l'ancien gouvernement, enfin le président du précédent, parlait lui aussi d'adaptation, de grande enveloppe pour s'adapter face au changement climatique. Ça paraît formidable tout ça.
Bien sûr, ça paraît formidable. Malheureusement, ça l'est un peu moins. Pourquoi ? Parce que vous parliez du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, c'est un plan qui n'est pas... Le troisième plan national, l'État avait l'obligation de sortir son troisième plan national en 2023. Donc là, on attend toujours le nouveau plan et avec les instabilités gouvernementales, ça ne fait que reculer pas mal de choses. Il y a ce plan-là, mais il y a plusieurs politiques sectorielles. Il y a la stratégie nationale bas carbone. Il y a plusieurs textes de loi qui doivent être sortis, qui ne sont pas sortis aujourd'hui. Et quand bien même ils seraient sortis, puisque là, on parle du PNAC 3, c'est-à-dire qu'il y en a eu un 2 et il y en a eu un 1.
PNAC, donc le plan national d'adaptation au changement climatique.
Ce sont surtout des grandes intentions, des grandes orientations, mais qui revêtent deux aspects qui, pour nous, sont vraiment fondamentalement inefficaces. C'est d'une part, ce n'est pas financé, donc c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, alors qu'il y a des solutions vraiment simples et efficaces. On pourrait y venir sur financer la transition. Et surtout, ce sont des politiques qui sont uniquement technique, voire techniciste. C'est-à-dire qu'on prend le problème d'un point de vue technique. On regarde, est-ce qu'il faut augmenter le diamètre des tuyaux d'évacuation ? On regarde la résistance de certaines infrastructures de transport, d'habitation, etc. Ce qui est intéressant, mais en fait, les impacts du changement climatique, ils sont principalement sociaux. Et c'est ce que nous dit notamment le dernier rapport du GIEC, le sixième qui est sorti il y a 2 ans, c'est que si on aborde la question climatique uniquement par l'angle technique, on passe à côté des solutions, parce qu'on passe en fait à côté du phénomène. Les exemples que je vous ai donnés juste avant, on voit qu'on a besoin d'avoir une approche sociale et sociétale pour comprendre comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Je vous donne un exemple très concret. Si on dit, on émet trop de particules fines, il faut résorber, il faut en gros qu'il y ait moins de voitures qui circulent sur les routes. Les particules fines, c'est 40 à 100 000 morts par an en France métropolitaine. Donc, est-ce qu'on passe à la voiture électrique ? Mais en fait, c'est une solution technique, mais ça n'apporte pas du tout de réponse à la question de comment ça se fait que depuis 50 ans, les personnes ont été obligées de s'éloigner de leur lieu de travail, de leur lieu d'études. Comment ça se fait qu'on passe 2h30 dans les transports ? Comment est-ce qu'on peut recréer des zones où on a des commerces de proximité et pas des grands ensembles ? Je pense notamment aux zones périurbaines où on est obligé de faire une demi-heure de voiture pour aller à la boulangerie. Enfin, voilà, c'est des questions plutôt d'organisation sociale qui aujourd'hui ne sont pas du tout adressées.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Elise Nakarato. Tout de suite, alors, on va faire une petite pause musicale et on s'envole avec Arca M, Enfant des papillons.
Pourquoi tout est bizarre ici ? Pourquoi maman sourit pas? Pourquoi personne ne parle ici? Et pourquoi papa s'en va? Est-ce que papa reviendra? Il a pris ses affaires, il a dit si je quitte ta mère, c'est l'histoire de ma vie. Comme les femmes là-bas sont belles, et qu'est-ce qu'elles vont devenir si personne ne leur dit? Et moi j'avais 10 ans, et quand on crie à 10 ans, personne ne l'entend. C'est des histoires de jeunesse, les histoires des adultes, c'est pas pour les enfants. Pourtant papa se barre d'ici. Est-ce que c'est plus beau là-bas? Pourtant papa se barre déjà. Il fait froid dans ma chambre, je crois que la nuit ne va jamais passer. Troisième fois cette semaine que le plancher trempe, je crois qu'ils en ont jamais assez de se disputer. J'entends des bruits, j'entends des pleurs, j'entends des vases cassés. J'entends le temps dire à l'amour qu'ils ont connu d'aller se cacher. Il faut que je descende pour regarder. Dans l'escalier, c'est mon statut d'enfant de 10 ans qui m'empêche de leur demander. Où sont passés les papillons que vous aviez dans le ventre? Où sont passés les rêves d'avenir, les rêves de vacances? Où sont passées les traces de ce gros soir dans une robe blanche? Où sont les marques de tendresse, les câlins, les grandes danses? Où est l'espoir? Où sont mes parents ce soir? Pourtant papa se barre d'ici.
Il est 19h20, on écoutait Arca M, Enfant des papillons, vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Elisina Carato, rebonjour. Donc, vous êtes toujours responsable plaidoyer d'Oxfam.
Toujours là.
Et donc, nous parlions du plan d'adaptation national au changement climatique. Peut-être juste pour rebondir donc, sur ce que vous disiez, vous insistez sur le fait qu'actuellement, les plans d'adaptation, ce sont surtout finalement des feuilles de route assez techniques et où il n'y a pas vraiment de budget derrière. Et alors, justement, demain, en Conseil des ministres, on a une vingtaine d'articles qui va arriver sur la table donc des ministres du gouvernement actuel avec un projet de loi d'urgence pour Mayotte. Est-ce que, à vos yeux, donc ce projet de loi, alors qui concerne notamment la reconstruction d'infrastructures scolaires, qui concerne aussi l'eau, est-ce que c'est un modèle de ce que devrait être finalement demain un plan d'adaptation au changement climatique ?
Alors, vu les déclarations de certains ministres ces derniers jours, j'ai peur que ce ne soit pas le cas et j'ai peur que ce plan ne soit pas dédié au bien-être des Mahorais, mais plutôt à servir certains objectifs politiques. Mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'on aura une bonne surprise demain, je ne veux pas insulter l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui aujourd'hui crée ces impacts dramatiques pour les personnes sur place, c'est des problèmes qui étaient existants avant le cyclone. On parlait il y a 5 minutes de l'accès à l'eau, l'inaccès à l'eau, en tout cas à Mayotte, il n'existe pas depuis décembre 2024. En fait, c'est des problèmes structurels qu'on a depuis des années et des années, qui est notamment pas lié au changement climatique, mais qui est lié au fait que c'est un territoire qui est délaissé, où il n'y a pas d'investissement public, en tout cas pas à la hauteur d'autres territoires, notamment de la France hexagonale. Dans quel endroit est-ce qu'on peut avoir depuis des années des coupures d'électricité, des coupures d'eau pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et que rien ne se passe, c'est un désert médical. Enfin, voilà, y a beaucoup de critères qui viennent en fait être impactés, qui viennent être augmentés par le cyclone, mais qui étaient déjà là auparavant. Donc, on aurait probablement pu les traiter avant. Peut-être qu'à partir de demain, ils seront traités et ce serait vraiment très bien et très important. Mais je suis pas hyper
optimiste. Si je comprends bien, en fait, ce que vous dites, c'est que Mayotte est un cas typique de zone qui n'était pas adaptée, justement.
Exactement. C'est une zone qui n'est pas adaptée. Alors, globalement... Je vais pas casser l'ambiance, mais personne n'est adapté, ni en France, ni dans d'autres pays du monde.
L'ambiance est cassée. Voilà.
On va dire que, en tant que pays riche, on a un avantage par rapport à des pays qui ont encore moins la capacité d'adaptation. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la France en général n'est pas adaptée au changement climatique. Nous, chez Oxfam, on a sorti un rapport en juillet 2024 dont le titre est « Nous ne sommes pas prêts », justement sur l'adaptation, en disant « Voilà pourquoi nous ne sommes pas prêts ». La question des impacts, la question de la vulnérabilité, la question des investissements n'est pas du tout traitée aujourd'hui. Et ce qui, désolé de casser encore plus l'ambiance, qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on n'est pas du tout en train de prendre la trajectoire pour être prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en janvier 2025, il y a des investissements publics qui sont faits. Je pense à la construction d'hôpitaux, la construction de routes, la construction d'écoles, qui ne tiennent pas compte de la réalité climatique. C'est-à-dire qu'ils sont faits comme si on était sur une trajectoire de réchauffement et d'impact du changement climatique à plus 0 degré. Donc, ce qui est déjà... faux. C'est même pas des projections à 10 ans, à 20 ans. J'ai un exemple.
On rappelle d'ailleurs que du coup, là, pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de 1,1 degré.
C'est ce sur quoi on est aujourd'hui, mais souvent, on regarde à 2100. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire mondiale de plus 3 degrés. Et ce qui veut dire, c'est pas pareil dans toutes les zones du monde, en Europe, ce serait plutôt plus 4 degrés. Mais c'est pas tellement le chiffre qui est important, c'est plutôt les trajectoires. C'est surtout ça. Et c'est en gros, quel rythme, où est-ce qu'on va et quel rythme on va. Aujourd'hui, il y a des budgets qui sont dépensés. En ce moment, sur l'île de Nantes, il y a un hôpital qui est en train d'être construit, qui est en zone inondable. Donc, ça veut dire qu'on est certain que cet hôpital va être inondé et que les infrastructures, d'ici 2050, 2060, les infrastructures ne seront juste pas... ce ne sera pas possible de les utiliser parce que pour plein de raisons, des raisons historiques, des raisons techniques, des raisons souvent aussi administratives, de millefeuille entre qui a le droit, qui doit faire, etc. Mais en tout cas, ça ne rend pas service aux populations et ça, c'est, C'est même, en fait, on jette de l'argent à la poubelle.
Et justement, qu'est-ce qui explique cette dichotomie entre ce qui est mis en place et la réalité des enjeux auxquels on est confronté? Est-ce que c'est un manque de formation de la part des politiques? Est-ce qu'il y a une question de proximité, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas concerné parce que ça touche surtout les territoires qui sont éloignés, du coup on se dit on est à l'aise, nous de notre côté, on y va mollo. Voilà, qu'est-ce qui explique tout ça?
Alors, sur ce point, il y a probablement plein de raisons qui expliquent. La dernière raison que vous évoquiez, on ne se sent pas concerné. Malheureusement, on est tous et toutes de plus en plus concernés, et y compris en France métropolitaine. On a vu les inondations cet été en Ardèche, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques mois, on a vu ce qui s'est passé à Valence en Espagne, l'année dernière en Allemagne. Donc on voit, il y a des phénomènes différents, mais on voit qu'aujourd'hui, 2022, des feux de forêt, des canicules extrêmes pendant l'été. Donc la question de « on n'est pas concerné », malheureusement, on est obligé aujourd'hui de regarder un petit peu ce phénomène-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... alors, je vais vous donner une bonne nouvelle cette fois-ci. C'est que les solutions pour l'atténuation, donc réduire notre empreinte carbone, et pour l'adaptation, donc s'adapter aux phénomènes qui sont déjà là et qui vont de toute façon être là, elles existent et on sait lesquelles elles sont. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. On a des scientifiques, on a des chercheurs, des chercheuses qui travaillent à nous proposer des solutions. Mais c'est des solutions qui, politiquement, coûtent, puisque ça veut dire obliger à changer, obliger à regarder une réalité en face qui n'est pas très agréable. Et donc aujourd'hui, on a des personnels politiques, soit des personnels politiques qui n'ont pas envie de prendre ce risque-là et de mettre en jeu leur carrière, parce qu'en gros, c'est des changements qu'on doit faire tout de suite pour des bénéfices à 10, 20, 30 ans. Donc eux et elles ne verront pas ces bénéfices-là, en tout cas dans leur carrière politique. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que très concrètement, il y a des acteurs, notamment des acteurs économiques, qui ont intérêt à ce qu'on ne change pas. Je pense notamment aux industries fossiles, à l'industrie de l'aviation, à toutes les grosses industries très polluantes qui ont un intérêt économique et d'ailleurs qui se battent bec et ongles en faisant du lobbying, notamment au niveau français, au niveau européen, au niveau international, avec des moyens colossaux pour éviter ce changement-là.
Vous les croisez ?
Malheureusement, ça m'arrive de les croiser, effectivement, et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de se dire que il faut pas être naïf, il faut pas être idéaliste en se disant peut-être que s'il y avait plus d'informations, les décideurs, les décideuses pourraient prendre des décisions. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on se bat quand même contre des intérêts économiques extrêmement puissants. Qui, en fait, privilégie le rendement à court terme, pour une très petite catégorie de la population, notamment dans les pays riches et notamment les personnes aisées, les personnes blanches, les personnes qui sont au pouvoir économiquement, au détriment de 99% de la population. Quand on regarde les questions climat au niveau mondial, en fait, on a des inégalités qui sont tellement énormes que si on agissait vraiment concrètement, on pourrait facilement trouver des solutions. On a 50% de la population mondiale qui émet seulement 8% du CO2. Et à l'autre bout du spectre, c'est l'inverse. On a 10% de la population mondiale qui émet 50% du CO2. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des phénomènes de changement de méthode de production, de consommation qui soient égalitaires, que ce soit au niveau des pays, mais aussi au niveau international.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que il me semble que c'était l'année dernière, il y a eu un procès de Total qui a été assez inédite face à sa responsabilité environnementale. Aujourd'hui, on en est où à ce niveau-là? Comment on fait que les industriels puissent assumer enfin leur responsabilité et qu'ils soient surtout sanctionnés? On en est où au niveau de tout ça?
Alors, on en est assez loin, malheureusement. Ils sont pas sanctionnés et ils n'assument pas leurs responsabilités, parce qu'en fait, on a des dynamiques de pouvoir, et notamment des dynamiques aussi au niveau international assez coloniales et néocoloniales de pouvoir de certaines entreprises. On pense à Total, mais je pense aussi à tout l'Empire Bolloré qui est extrêmement puissant en Afrique de l'Ouest et qui va pouvoir, grâce à ces industries, mettre une pression sur les populations, sur les gouvernements locaux et les obliger à faire des choix qui sont à court terme intéressants économiquement, mais à long terme délétères pour l'ensemble des populations, en tout cas pour la majorité de la population, notamment les plus vulnérables.
Et nous, en tant que citoyens, comment on peut faire pour justement faire pression sur ces grands pouvoirs et un peu agir de concert pour essayer de faire changer les choses aussi et de faire entendre un petit peu nos voix face à ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réveil, notamment sur les nouvelles générations, sur tous les enjeux climatiques, puisqu'on est les plus concernés et puis parce qu'on est nous-mêmes les premières victimes, entre guillemets, de ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, justement, pour faire un petit peu changer les choses et faire prendre conscience aux politiques et aux grandes entreprises qu'il faut agir?
Et ce sera le mot de la fin.
Eh ben, on peut agir. Ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle. On peut se renseigner, on peut en parler autour de soi, on peut rejoindre des collectifs, par exemple le groupe local d'Oxfam à Paris, mais aussi d'autres collectifs, si ça vous dit, pour agir ensemble. Et notamment, bien sûr, les petits gestes, c'est toujours utile, mais l'action individuelle la plus efficace, c'est l'action collective. C'est faire pression, c'est aller voter, c'est en parler autour de soi pour pouvoir entraîner des changements systémiques, des changements globaux qui auront beaucoup plus d'impact que les changements individuels.
Merci beaucoup Élise Nakarato. Je rappelle donc vous êtes responsable plaidoyer chez Oxfam. Donc merci d'avoir été avec nous dans cette matinale. Si vous voulez agir, on le rappelle, allez voter et donc rejoignez Oxfam ou d'autres collectifs. Et puis merci Quentin. Nous sommes le mardi 7 janvier. Vous êtes sur la matinale de 19h et tout de suite une pause musicale avec Porcherie des Berruriers Noirs.
De toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National.
La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National.
jeunesse immigrée. Solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. La jeunesse en mer. Merci.
Et oui, d'ailleurs, si vous emmerdez le Front National, vous pouvez vous rendre à la République où il y a un apéro géant, puisque, bah, je rappelle, Jean-Marie Le Pen est mort. C'était Porcherie des Berruriers Noirs, c'est sur Radio Campus Paris, 19h35 et bientôt 36. Et tout de suite, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
À la une, donc, la mort de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, avait 96 ans, figure de l'extrême droite française. Il avait fait entrer son parti à l'Assemblée nationale dans les années 80. Il a été créé sous l'impulsion d'anciens membres de la Waffen-SS et de résistants. Sa carrière s'étend sur plus de 60 ans et a été marquée par l'accession de son parti au second tour de l'élection présidentielle de 2002, remportée par Jacques Chirac. Sinon, on lui doit un nombre incalculable de propos racistes, xénophobes, homophobes. La liste n'est pas complète. Il avait notamment qualifié les chambres à gaz de détail de l'histoire. Sa fille Marine Le Pen, chef des députés RN, l'avait exclu du parti 4 ans après sa reprise des rênes du Front National, devenu Rassemblement National. Commémoration de la tuerie de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2025 marque le 10e anniversaire de l'attentat terroriste islamiste contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts, dont 8 membres de l'équipe rédactionnelle. C'est la première tuerie d'une série d'attentats perpétrés pendant 3 jours de terreur de Montrouge à l'hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. À l'occasion de ces commémorations, de nombreux hommages aux victimes ont eu lieu en présence du président de la République, Emmanuel Macron, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d'autres élus de la ville. Le prix des billets de TGV va augmenter en moyenne de 1,5% à partir de mercredi, soit légèrement moins que l'inflation. Celle-ci est attendue à 1,7% en 2025, d'après l'INSEE. Les vols internationaux ont repris mardi dans une atmosphère de liesse à l'aéroport international de Damas en Syrie. C'est le premier vol commercial depuis la prise du pouvoir en Syrie par une coalition dirigée par des islamistes radicaux qui a chassé le président sanguinaire Bachar al-Assad. Dans le hall d'arrivée, des Syriens portant des ballons multicolores et des bouquets de fleurs ont accueilli les passagers du premier avion de Qatar Airways, premier avion à atterrir dans la capitale depuis près de 13 ans. Enfin, retour à Paris où, malgré les barrages interdisant l'accès à la ville aux agriculteurs de la coordination rurale, au moins 2 tracteurs ont réussi à contourner les barrages pour se rendre en plein cœur de la capitale. Moins importante que prévue par l'organisateur, la mobilisation s'est tenue sur fond de protestation contre l'accord de libre-échange UE-Mercosur.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et le Zoom de ce soir est présenté par Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir Guilhem, ça va bien ?
Eh ben ça va et toi ?
Oui, ça va très bien.
Eh bien ce soir, le Zoom nous emmène manger des pop-corn.
Oh là là, quelle belle transition. Rémi Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
On parle de pop-corn puisque vous êtes délégué général du Festival Paris Courdevant. Festival donc de courts-métrages, mais pas que, qui célèbre cette année sa 19e édition du 10 au 17 janvier. Donc ça commence dans 3 jours. Et ce sera au cinéma Les 7 Batignolles et au Centre Paris à Nîmes. Mado Robin, donc je le disais, vous êtes délégué général de ce festival et dans votre éditorial de ce Paris Courdevant, vous dites que ce qui vous anime dans ce festival, c'est, je cite, l'envie de cinéma, le besoin de cinéma, la pulsion vitale qui se pousse à se mettre à écrire, à filmer, à jouer la comédie et à composer et à écrire. Est-ce que la pulsion, elle est encore là au bout de 19 éditions d'un festival comme Courdevant ?
Ben en fait, la pulsion, c'est pas nous qui l'avons, qui l'ayons, je sais même plus comment on dit ça.
Qui
l'avons, oui, c'est ça. C'est les cinéastes émergents, en fait. On se rend compte que année après année, l'envie de cinéma ne se tarit jamais. Il y a énormément de courts-métrages qui se tournent, énormément de gens qui se tournent sur ces formats-là qui sont évidemment les formats d'entrée dans le métier, à la fois pour les étudiants, mais pas uniquement pour les étudiants, pour tous les gens qui ont envie de faire du cinéma, ceux qui ont fait des études ou pas de cinéma. Il y a énormément de gens, beaucoup de comédiens, beaucoup de, d'auteurs aussi, de scénaristes qui se mettent à la réalisation. On se rend compte que cette pulsion-là, elle est tellement vivante, en fait, que par exemple, cette année, on a reçu 200 films de plus que l'année dernière, ce qui monte à peu près à un millier de films, les courts-métrages qu'on a reçus pour... aussi bien en écriture qu'en jeu, il y a aussi toujours autant de comédiens et de comédiennes qui ont envie de jouer, de faire du cinéma. Enfin, cette pulsion-là ne se tarit jamais, en fait.
Et donc, cette pulsion se traduit en 8 programmations de courts-métrages qui seront répartis, qui seront programmés plusieurs fois pendant le festival. Donc, il y aura plusieurs courts-métrages à découvrir pendant une séance de cinéma. Au 7 Batignolles, comment vous les avez constitués? Parce qu'il y a énormément de catégories. Ça va de la petite enfance à des sujets un petit peu plus précis. Comment vous avez travaillé à cette sélection?
Alors, en fait, on a un corpus de la compétition officielle qui fait 5 programmes d'à peu près 6 films chacun. Ces films-là sont tout mélangés, je dois dire. Enfin, ils sont pour tout public ou public adulte. Ceux-là ne sont pas sectorisés. On a aussi un programme en effet pour les enfants, un programme pour les 7-10 ans qui est un âge assez complexe. C'est plus des petits-enfants, c'est pas encore des ados. Donc voilà, on a un programme comme ça. Et puis on a
dimanche à 15h.
Dimanche à 15h, voilà, à déguster en famille, bien sûr. Et puis on a 2 programmes un peu spécifiques. Un qui s'appelle Traverser la guerre, puisque il y a, enfin, évidemment, tous les sujets sont dans les courts-métrages. Et on a trouvé cette année que ce sujet-là concernait beaucoup d'autrices et d'auteurs et de réalisateurs.
Il y avait une prédominance dans les envois que vous avez reçus de courts-métrages.
Il y en a eu pas mal de bons, parce que évidemment dans ce qu'on reçoit, dans le milieu qu'on reçoit, il y a du bien et du moins bien. Et en effet, il y avait un corpus de films qui se dégageait assez clairement de l'influence de la guerre sur les vies ordinaires. En fait, c'est pas tellement la guerre traitée en elle-même, mais l'influence de la guerre sur les populations civiles. Mais même avant la guerre, pendant la guerre et puis longtemps après la guerre aussi. Voilà.
Et vous avez une troisième programmation exceptionnelle qui est la programmation au long cours.
Au long cours.
Donc ça va sur du court-métrage qui avoisine les 30 minutes, voire qui les dépasse.
Oui, c'est ça.
Ce qu'on appelle du coup en France des moyens-métrages. Et c'est par définition entre le court et entre le long-métrage. Et c'est un type de film qui souffre de peu de diffusion. Il y a uniquement le festival de Brive, il me semble, en France qui en propose. C'est quoi l'enjeu aussi de diffuser ce genre de films et de les mettre en valeur? Est-ce qu'il y a un enjeu de faire vivre aussi ces films-là spécifiquement?
Bien sûr, puisque en fait, alors c'est vrai que les courts-métrages de moins de 10 minutes et puis les courts-métrages entre 10 et 20 et 30, c'est pas vraiment les mêmes histoires. On peut pas traiter les mêmes sujets, on peut pas les traiter en profondeur. Et c'est vrai que montrer les films un petit peu plus longs, c'est leur donner une visibilité. Et très souvent, ce sont des films qui, comme vous disiez, qui approchent les durées de long métrage. Donc, ça permet à des jeunes auteurs de rentrer un peu plus profondément dans le métier, d'aborder des manières de traiter les sujets qui sont beaucoup plus compliqués qu'en 10 minutes. Enfin, voilà. Donc, c'est très important de les montrer, bien entendu. Brive, Clermont-Ferrand aussi montre entre 30 et 1 heure, parce qu'en fait, la définition du CNC, c'est d'un court-métrage, c'est entre 0 et 60 minutes. Nous, dans le programme de court-métrage, on s'arrête à 30 minutes. Même nos longs cours font pas plus de 30 minutes. Et après, il y a quelques festivals, en effet, qui montrent les durées un petit peu plus intermédiaires vers le long-métrage.
Qu'importe la durée, d'ailleurs, je me permets de vous couper, qu'importe la durée des courts-métrages, voilà, c'est en dehors des festivals, c'est difficile de montrer du court-métrage, notamment à la télévision, parce que alors on est une radio campus, donc on est censé être une radio jeune, mais on se rend pas encore forcément compte, mais la télévision a encore un rôle très important dans l'économie du cinéma, et le court-métrage c'est très peu montré, voire pas assez. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là, quelle que soit la durée du film aussi, de faire vivre des films, en plus d'être un tremplin pour les cinéastes qui viennent à Paris Courts-de-Vent?
Oui, en fait, ce qu'il y a de très important, c'est la salle de cinéma, en fait, puisque la salle de cinéma, c'est vraiment l'endroit natif pour les films. C'est là qu'on les... D'abord qu'on les voit sur grand écran avec un son de très grande qualité, une image de très grande qualité, et surtout qu'on fait une expérience collective, ce qui n'est pas le cas à la télévision, sur son canapé. Et c'est très important, c'est pour ça qu'on les montre. Et en fait, vous disiez qu'importe la durée, en effet, qu'importe la durée sur la qualité des films. Nous, on a l'habitude de dire qu'on montre des grands courts-métrages, ça n'a rien à voir avec la durée, ça a à voir avec la qualité des films, et on montre des très grands films qui peuvent être des très grands films de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes.
Et il n'y a pas que des films qui vont jusqu'aux 30 minutes, puisque le festival propose aussi 5 projections de premiers long métrage. Pourquoi sortir de ce seul cadre justement du court métrage? Est-ce que c'est aussi une occasion de faire un suivi avec des personnes que vous auriez sélectionnées auparavant? Pourquoi ce choix?
C'est exactement ça. En fait, nous, on n'aime rien tant que d'accompagner les jeunes auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices. Et en fait, le passage au long métrage est une affaire bien complexe, bien compliquée. Et on est justement extrêmement heureux et fiers la plupart du temps de montrer des gens qui sont passés chez nous avec des courts-métrages et qui ont réussi à transformer l'essai et à faire des premiers longs-métrages. Donc on est heureux, très heureux de les accompagner, de leur donner un petit coup de pouce aussi si on peut. Il y a certains films qui n'ont pas encore de distributeur, donc voilà, de les montrer à Paris en avant-première, c'est quelque chose de très important pour eux.
Et Paris Courdevent, c'est un festival où on peut voir du court-métrage, où on peut voir du cinéma pendant une semaine, mais c'est aussi un rendez-vous de professionnels. Au rendez-vous, il y a des marchés de productrices, notamment vendredi, qui arrivent donc au début du festival, mais aussi plusieurs tables rondes réparties pendant toute la manifestation, notamment autour de l'écriture de scénarios, mais il y a d'autres sujets. Comment on conjugue ces moments, on va dire, destinés à un public professionnel avec le reste de la programmation, avec la programmation des films, pour que le festival reste quand même grand public et accessible à toutes et tous?
Eh bien, la plupart du temps, tous les rendez-vous professionnels sont en journée, la semaine. Donc, la plupart du temps, les gens qui vont voir les films pour leur plaisir, eux, ils y vont le soir. Et donc, le soir, nous avons les projections de courts-métrages et de premiers longs-métrages. Et la plupart des rendez-vous professionnels, sauf certains qui sont très ludiques, parce qu'on en a quelques-uns qui sont très, très passionnants, qui sont, eux, le week-end en après-midi. Mais là, sinon, la plupart du temps, les rendez-vous professionnels sont dans la journée, en semaine.
Et il y a plusieurs tables rondes, je disais, mais il y a aussi des moments où des personnes vont pouvoir pitcher leur projet. Le festival permet aussi d'être dans l'entremise entre des jeunes auteuristes et des producteurs.
Exactement. On appelle ça le marché au projet ou le marché au prod. En fait, ce qu'on adore dans le festival, c'est justement de faire se rencontrer les projets, les gens qui font arriver les projets, les diffuseurs, les producteurs. Et on n'est jamais plus heureux que quand on apprend quelques années après que tiens, telle rencontre a été faite chez nous à Paris Courdevent à la suite d'un pitch. Il y a un couple producteur-auteur qui s'est fait et qui ont continué à travailler et qui sont ensuite passés au long métrage. Ce qui arrive là exactement sur le film d'ouverture. Vendredi. Voilà, c'est un long métrage qu'on avait présenté à l'état de projet en compétition, et il a rencontré la productrice, et le film a fini par se monter, et on le montre maintenant en avant-première.
C'est dans la cuisine des Nguyen, je précise, de Stéphane Lee Kuang. C'est donc vendredi à 20h.
Exactement.
Au 7 Batignolles.
Exactement.
Je précise que dans les moments professionnels, avant la dernière question, il y a une des nouveautés cette année, qui est un forum public autour de l'inclusion, parce que c'est une des missions aussi de ce festival, c'est l'inclusion des personnes. En l'occurrence, un forum autour de l'inclusion de personnes handicapées dans le monde de l'audiovisuel, ce qui n'est pas une mince affaire. Ma dernière question, c'est que voilà, je disais que c'était la 19e édition, ce qui veut dire que l'année prochaine, c'est déjà la 20e, c'est déjà les 20 ans. Est-ce que vous commencez déjà à y penser? Est-ce que vous songez déjà à marquer le coup pour ce moment-là?
Alors, probablement, on marquera le coup. Pour l'instant, on a la tête dans le guidon sur la 19e. C'est tellement difficile de faire le festival, de le maintenir à flot, que on est vraiment très très concentré là-dessus. Évidemment, on va essayer de trouver le bon moyen de célébrer ces 20 ans dignement, festivement. Je sais pas, on n'a pas encore réfléchi réellement au sujet.
Déjà, on vous souhaite une excellente 19e édition. Paris Court Devant, c'est du 10 au 17 janvier au cinéma Les 7 Batignolles et au centre Paris Anime Mado Robin. Plus d'informations sur courtdevant.com. Merci Rémi Bernard.
Merci beaucoup.
Et merci Simon pour l'animation de ce Zoom. 19h49, dans quelques instants, la chronique de Fabien. Mais avant, une dernière pause musicale avec Max Baby. Et le titre, ça s'appelle Hardcore.
I think we got this wrong. It's about time we called it. But it's the right of the people to rise upon it. I never had control. I'm either out or under. And all the fun, and who's gonna remember? Hear that call, you hear it in your soul, but still ain't got nothing to say. Make believe for my baby, so hardcore, but it don't mean much today. Oh, to the end. I think I got this all wrong. I'm right where I should be. And I hear every taste when the record's on. And my fingers are trying to choose our song. I saw skin and leather. Should be sticking together. But buddy, we have fun. That's how I remember it all. But maybe this time I'll take control. Hear that call, you hear it in your soul, but still ain't got nothing to say. Make believe all my pain is so hardcore, but it don't mean much today.
C'était de Max Baby. Vous êtes sur Radio Campus Paris et il est 19h54.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et plus que 5 minutes avant la fin de cette émission. Mais d'abord, on accueille Fabien qui nous parle bonnes résolutions. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir. Et oui, effectivement, je vais vous parler des bonnes résolutions de l'année. Et tout le monde le sait, qui dit nouvelle année dit nouveau départ.
C'est vrai.
Mais qui y croit encore ? Quelle est la dernière résolution du nouvel an que tu as réellement appliquée l'année dernière, tu sais ? L'année dernière ou les autres années d'ailleurs, non ?
je vais nager. Des fois, je vais plus nager, mais ça n'a pas tenu en moi.
Et tu as vraiment tu l'as tenue longtemps celle-là ?
Un mois.
Un mois, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, entre les incontournables et les attendus de cette nouvelle cuvée 2025, j'ai donc listé toutes les bonnes résolutions, entre guillemets, illusoires auxquelles s'attendre, et ça va faire mal. La dixième, c'est lire un livre par semaine. On la connaît, la fameuse « Cette année, je bouquine » qui fait bien rire la pile de le bouquin accumulée sur notre table de chevet durant l'année écoulée et dont on n'a pas lu la moitié des quatrièmes de couverture. Hein, pas le livre, juste les quatrièmes de couverture, c'est déjà pas mal. Si toutefois un miracle se produit et que vous décidez vraiment de vous y mettre, je vous concocterai une petite liste parfaite pour la prochaine fois. Ensuite, nettoyer son frigo. Non, l'odeur de mort qui émane de votre frigidaire n'a rien à voir avec le bac à légumes ni vos restes d'hier soir. C'est bel et bien votre frigo qui pue et puis il faudrait essayer de le nettoyer un peu plus souvent. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. Vous décidez de prendre des résolutions plus tard ? Pourquoi avancer à aujourd'hui ce qui peut être fait tranquillement le lendemain ? C'est presque comme ne pas prendre ses résolutions mais les utiliser pour en faire de la publicité mensongère. Ensuite, arrêtez de dépenser ces thunes dans tout et rien. Oui, on le sait, des places en carré or pour Taylor Swift à 200€, la dernière connerie à la mode ou des sacs de vêtements pendant les soldes, ce sont tout sauf des bonnes affaires.
Oh, Taylor Swift, c'est super.
Ouais, j'en ai choisi un au hasard. Je voulais pas te vexer. En sixième position, arrêtez de s'endormir devant les films. À l'heure où les catalogues se rallongent et donc le temps de choix du film du soir ne cesse de croître, c'est difficile de vous croire quand vous nous dites que vous ne tiendrez pas plus longtemps que les crédits d'ouverture. Non, et c'est quand la dernière fois que tu as regardé un film en entier, du coup ?
Hier. Si je l'ai tenu. Ouais, c'est mais vrai. À un moment, j'ai regardé mon téléphone.
C'est vrai ce mensonge ?
Non, c'est pas.
Ensuite, nettoyer sa gourde. Je sais pas si t'as une gourde, mais on le sait, après notre propre bouche et la ligne 3 du métro parisien, il n'y a rien de plus infesté de bactéries que nos jolies gourdes hermétiques dans lesquelles trempent nos lèvres chaque jour de la semaine. Et ce, malgré ça, on se dit qu'un peu d'eau chaude fera l'affaire, et c'est faux, il faut bien la désinfecter.
Savon.
Ensuite, la quatrième position, sourire dans le métro. Ça, c'est spécialement pour les Parisiens. Celle-là, vous l'oublierez direct. Une fois ce que sont passés les portiques de l'enfer, les souterrains ferrés de Paris donnent lieu à un festival de moues boudeuses et fâchées. Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire dans le métro, c'est pas compliqué, c'est inévitable. Toute tentative de rictus de votre part risque de provoquer un malaise dans le wagon et qu'on vous regarde d'une manière bizarre. Et bien entendu, ce sera englouti par la mélancolie collective de la RATP. Et sur ces bons conseils, je vous souhaite une bonne année et de réaliser tous vos projets.
Merci beaucoup Fabien. Donc il est 19h57 et plus qu'une minute pour vous remercier d'avoir écouté ce live de Radio Campus Paris. On rappelle que Jean-Marie Le Pen est mort. Et on remercie donc tous nos amis qui ont participé à cette émission. Merci Maïwenn pour la coordination de cette émission avec l'aide d'Alice. Merci Simon pour le Zoom. Merci Quentin pour l'interview. Merci Joey pour la réalisation. Merci encore Fabien pour cette super chronique. Merci Jeanne dans le public et merci à tout le public et ceux que j'ai pas pu et celles et ceux que j'ai pas pu remercier. Merci d'avoir été avec nous, à toi, chère auditrice. Et la radio, ça continue sur Radio Campus Paris jusqu'à 5h30 sur le 93.9, tout le temps en DAB+. Portez-vous bien.